cette année-là, il venait de Pologne.
Entre les jeunes, bon, ils ne pouvaient pas nous voir non plus. Hein. C'est le Polak qui nous appelait tout ça.
Mes parents, ils venaient du Nord, qu'on appelait les Camberlots.
Exactement. Mon pays, c'était Dentergem.
Il y a eu des Yougoslaves, des Serbes.
Surtout les Italiens.
Au début, je me suis ennuyée à mourir, madame.
Ben, c'est pas possible de croire qu'on a travaillé comme ça.
On marchait à genoux, on marchait à quatre pattes.
4 fois 5 ans, il fallait 20 mineurs.
Moi, je suis venue en 1930.
8000 ouvriers pour faire les minages de betteraves.
Travailler le nez. Le nez bientôt collé au sol.
Non, vraiment, quand je pense à tout ça, je dis, c'est pas possible que j'ai fait tout ça. C'est pas possible. J'ai 82 ans, madame. Ben, c'est pas possible de croire qu'on a travaillé comme ça.
Moi, j'ai été ici un des tout premiers à avoir une arracheuse décolleteuse.
Puis on disait toujours, on voudrait bien s'acheter une petite maison.
Dans la série d'émissions intitulée « L'homme et la betterave à sucre », 100 ans de mémoire collective du Valois et du Mulsien, émission construite à partir des interviews de ceux et de celles qui ont participé à l'évolution de la culture betteravière, RVM aujourd'hui met en évidence les rapports complexes entre les exploitants et leurs ouvriers, le logement mais aussi l'isolement et le sous-équipement des villages de cette époque.
Le souci de loger les ouvriers remonte à la fin du 19e siècle, vers 1880, s'amplifiant au fur et à mesure de l'intensification des cultures qui demandaient un travail manuel important. Après la Première Guerre mondiale, il s'est accru avec l'espoir de fixer les ouvriers français attirés par le développement des villes et de meilleurs salaires, par l'espoir aussi de retenir la main-d'œuvre étrangère qui remplaçait progressivement les Français. Un agriculteur du Valois, qui s'est installé en 1938, nous dit qu'il possédait 16 maisons ouvrières, très inconfortables, et ce n'est qu'à son retour de captivité, en 1945, qu'il pourra installer des WC et l'eau dans ses maisons. Jusque-là, les femmes allaient laver le linge au lavoir communal, installé sur la Gergogne. Il évoque aussi le poids du linge mouillé, qu'elle remontait sur une brouette.
Ce témoignage nous permettra de mieux comprendre pourquoi les logements du passé sont restés gravés dans la mémoire des ouvriers que nous avons rencontrés. Écoutons tout d'abord la plus âgée, dont le père, venu du Nord comme saisonnier, fut embauché comme ouvrier permanent. Elle nous parle du début des années 20.
Vieille maison, vieille maison. Mon père, il peignait avec de la chaux.
Et combien de pièces, par exemple?
Eh bien, on avait 3 pièces.
Et vous étiez combien?
Eh bien, on était 9. Il y avait 2 lits dans la cuisine.
Ils avaient,
fait une cuisine dans la grange. On couchait les 3 filles ensemble, les 3 garçons ensemble.
Une autre qui s'est mariée vers 1934.
Quand on s'est marié, le patron il nous a donné un logement. Mm-hmm. Il y avait juste une pièce et puis un petit débarras pour mon petit... Hein, comme ça. Alors on est resté 13 ans là-dedans. La salle à manger, la chambre à coucher, la cuisine, dans la même pièce. Et on s'est éclairé avec pétrole. Parce que la maison que le patron nous a donnée, c'était une maison qu'il louait, qui n'était pas à lui. Alors il ne voulait pas nous faire installer l'électricité.
À la même époque, certains employeurs avaient déjà fait mettre l'électricité dans les maisons ouvrières. Mais ce n'est qu'après l'ordonnance du 7 juillet 1945, qui fixe les conditions générales de logement des ouvriers agricoles, puis les efforts du Comité national de l'habitat rural, qui prenait la rénovation de l'habitat ancien et la construction de logements neufs, que cette situation s'améliorera lentement. Par définition, les saisonniers qui ne faisaient que passer dans les fermes, même si c'était 7 mois sur 12, seront encore longtemps, pour certains, les plus mal lotis, puisque la solution de cette question est une question de conscience, comme nous le dit un agriculteur de Nanteuil-le-Haudouin.
Ça dépendait de l'employeur. Il y avait des endroits où ils étaient très bien logés, d'autres où il était beaucoup moins bien, et puis d'autres où il était très mal. C'était une question de conscience humaine.
Au mieux, les saisonniers disposaient de chambres pour 2 ou 3.
Les Polonais, ils étaient... bon, il y avait des chambres... Hein. Deux, trois. Les Italiens, il y avait une grande maison qui était libre, là, et ils étaient presque tous ensemble. Mmh. Et le couple avait sa chambre, et tant que ça... Bon, parce que... On est des hommes et des femmes, alors des fois il y a des problèmes. Hein, et, bon, mais longtemps, les Italiens, ils sont restés ensemble. Après, il y en a deux ou trois, deux frères, je crois, ils sont pris, il y avait une baraque de disponible, ils sont mis à part. Mais, bon, bah, puisque vous voulez, les logements... C'était... Il y avait un poêle, il y avait des bancs, il y avait une table, il y avait des lits, alors, avec des... C'était des paillasses, hein. Et les draps, je crois qu'on fournissait... Alors les draps, on les changeait, je ne sais plus tous les combien de temps, mais je sais qu'ils emmenaient leurs draps pour être lavés.
Au pire, il s'agissait de dortoirs délabrés. Écoutons la colère rétrospective d'un prêtre du Mulcien découvrant, vers le début des années 60, dans quelles conditions étaient logés certains saisonniers.
Moi, j'étais scandalisé. J'étais scandalisé que l'on se permette de loger des hommes comme ça, qu'ils soient italiens, qu'ils soient travailleurs agricoles. J'étais scandalisé, puis en tant que prêtre, de voir comment ces gens-là, qui faisaient un travail très, très, très dur, de les voir loger comme ça dans des baraques, alors qu'il aurait été si facile de donner un coup de peinture sur les murs, déjà, au moins pour égayer, pour assainir un petit peu tout cela. Les lits, n'en parlons pas.
C'était quel genre de bâtiment? C'était quand même plus grand.
Ben, c'était des bâtiments réservés aux saisonniers. Des maisons désaffectées. Des maisons de travailleurs français permanents qui ne voulaient pas de telles maisons. Bon, là, le général, disons, pas trop.
Qu'as-tu fait des jours enfuis, de ta jeunesse et de toi-même, de tes mains pleines de poèmes qui tremblaient au bout de ta nuit? Il avait toujours dans la tête le manège d'anciens tourments, de la fenêtre par moments parvenait des bouffées de fête. Où sont les lumières lointaines? Voici fermés les yeux éteints ce chant des lilas au matin, de Montmartre à Mortefontaine. Dis, qu'as-tu fait des jours enfuis, de ta jeunesse et de toi-même, de tes mains pleines de poèmes qui tremblaient au bout de ta nuit?
Les premiers agriculteurs qui amélioreront les logements ouvriers seront incompris par ceux qui étaient persuadés que ces logements seraient immédiatement dégradés. Ces différences de point de vue méritent que l'on s'y arrête quelques instants. N'oublions pas que la politique de logement pour les employeurs était motivée par la volonté de retenir les ouvriers, malgré la disparité des salaires avec l'industrie. Dans cet esprit, le logement fourni par l'employeur était gratuit et faisait partie de ce que l'on appelle les avantages en nature, comme la terre à pommes de terre. Si, par ailleurs, les salaires étaient corrects, ce système pouvait représenter un réel avantage financier pour les salariés. Mais en échange de cet avantage, les employeurs espéraient un certain attachement du salarié à l'exploitation qui se manifeste par la qualité de son travail, mais aussi par la stabilité dans l'emploi.
Or, cette attente sera souvent déçue, car entre 1920 et 1939, à côté d'une minorité de salariés occupant des postes plus valorisants qui resteront 10, 20 ou même 40 ans en place, une masse de main-d'œuvre étrangère passait moins d'un an et parfois quelques mois dans la même ferme. Ils avaient émigré pour gagner de l'argent et au moins au départ, avec un seul objectif, retourner dans leur pays d'origine. L'espoir le plus ténu de gagner un peu plus motivait un changement de place. Un ouvrier d'Ormois nous a parlé de ce turnover de main-d'œuvre. Il se souvient qu'au mois de mars, il y avait toujours des ouvriers qui s'en allaient parce qu'ils n'étaient pas contents, alors que d'autres attendaient à la porte de la ferme pour se faire embaucher.
Le premier objectif des employeurs n'était certainement pas atteint quant à l'espoir que les ouvriers entretiendraient ces maisons en bons pères de famille. Beaucoup d'entre eux furent déçus, pour une partie des ouvriers, puisque cette maison n'était pas la leur, que le patron se débrouille. Si un volet branle, si un carreau ne tient plus, on le signale au patron, de qui tout dépend, mais on n'y mettrait pas la main. Puis le temps passe, et si le volet est arraché ou la fenêtre brisée, tant pis pour lui, dit l'ouvrier, tant pis pour lui, dit le patron. De toute façon, ils avaient tous la crainte de perdre leur logement si un différend avec l'employeur les amenait à la rupture, ou, pire, lorsqu'ils ne pourraient plus travailler. Cette peur était ressentie encore plus vivement par les étrangers de la première génération, toujours insécurisés, même lorsqu'ils avaient obtenu des postes plus valorisants. Une partie des employeurs tiendra compte de cette inquiétude en revendant les maisons de ferme à leurs ouvriers et en maintenant parfois les plus démunis dans la maison qui leur avait été attribuée lors de leur embauche sur la ferme.
Le logement n'est pourtant que la partie visible de l'iceberg et celle qui est la plus facile à exprimer. D'autres ambiguïtés, particulièrement fortes dans certaines fermes, pèseront aussi sur les relations entre les exploitants et leurs ouvriers avant la Seconde Guerre mondiale. Ambiguïtés qui ne se lèveront qu'avec l'amélioration générale de la vie à la campagne, la diminution radicale des emplois et l'arrivée de nouvelles générations d'agriculteurs. Nous voulons parler ici de la place démesurée prise dans la vie quotidienne des ouvriers par les relations avec leur employeur, qu'il s'agisse des rapports de travail, de la vie de chaque jour ou de moments difficiles de la vie des salariés. Mais écoutons un prêtre en charge de plusieurs paroisses du sud de l'Oise entre 1957 et 1963.
Il fallait aller à la ferme pour téléphoner, pour avoir le médecin. Ensuite, pour aller chercher le médicament, c'est la patronne qui allait les chercher à Bec, parce que les gens n'avaient pas de voiture, comme ça.
Oui, c'est le contrôle.
Hein, aujourd'hui, tout le monde a sa voiture, quoi. À partir de 18 ans, on a sa voiture, c'est excellent, c'est bien. Mais à cette époque-là, on avait 40 ans, on n'avait pas de voiture, comme ça. Alors, on était... Le patron, c'était tout le patron. C'était l'employeur qui, du jour au lendemain, pouvait vous renvoyer. L'employeur. Le propriétaire de la maison. Ça, faut pas l'oublier. Bon, ben, celui qui détenait la voiture. Celui qui détenait le téléphone. Celui qui détenait souvent l'église. Même si le curé n'était pas d'accord, c'est comme ça, on arrive dans une paroisse, c'est un état de fait, qui détenait, et qui était le maire, j'allais l'oublier, le maire aussi, et qui détenait, je dirais aussi, le pouvoir politique. Autrement dit, si vous étiez dans les papiers du patron, très bien, si vous montriez un petit peu de personnalité, oulala. Un monsieur dangereux.
Dans plusieurs interviews, nous avons retrouvé les facettes multiples de cette situation paradoxale où, à cette époque, l'absence de moyens de communication, de services sociaux et l'incapacité des nouveaux émigrés à écrire le français pour remplir des papiers administratifs faisaient de l'employeur le recours obligé. Situation encore plus compliquée lorsque, par conviction religieuse, les employeurs intervenaient aussi près de leurs ouvriers pour les mettre dans le droit chemin.
Plusieurs ouvriers se souviennent que jusqu'au début des années 50, les papiers de sécurité sociale, c'est-à-dire de la mutualité sociale agricole, restaient chez leur patron et avant d'aller chez le médecin, il fallait passer à la ferme pour les prendre. Des conseils du patron ou de sa femme pouvaient porter aussi sur des questions très personnelles, comme la nécessité de faire des économies et la planification des enfants. Parallèlement, l'intervention de l'employeur en cas de coup dur ne sera jamais oubliée. Un ouvrier se souvient de quelle manière son père, polonais de la première génération, fut aidé par son patron lors d'une grave maladie.
C'est-à-dire qu'avant les patrons, j'étais gentil aussi. Bon, pour le moulin, ils étaient un peu sévères, mais ils savaient le reconnaître quand même. Ah oui, c'était formidable, parce que bon, bah, mon père, après, quand il est tombé malade, tout ça, bah, le patron, il envoyait son chauffeur pour aller voir les spécialistes, les médecins à lui, tout, hein, il s'occupait vraiment bien.
Pour pallier à l'absence de structures de soins médicaux, d'autres employeurs n'interviendront pas directement, mais favoriseront l'implantation de sœurs infirmières rayonnant sur quelques villages. Mais la clé de l'église aussi se trouvait parfois à la ferme, car n'ayant localement qu'une école publique, certaines femmes d'exploitants emmenaient les enfants à l'église après la classe pour prier. D'ailleurs, le recrutement d'ouvriers qui venaient eux aussi de régions catholiques favorisait cette initiative. Une ouvrière agricole de Lévignan se souvient de l'attitude de son père sur ce point.
C'était des gens très, très croyants. Dans le Nord, ils sont très croyants. Mon père, il nous a tous envoyés à l'école, à l'église. Alors on allait à l'école. En sortant de l'école, il fallait aller faire la prière à l'église. Et on allait dire notre Père, je vous salue Marie. Mais après, on filait dans les champs. Mais si on arrivait trop tôt, ils disaient, vous n'avez pas été à l'église. Hein? Et bien, vous n'aurez pas à goûter. Alors des fois, on s'amusait en route parce qu'on disait, on ne va pas avoir à goûter.
Mais lorsque la possibilité de garder une place était liée à la pratique religieuse, la critique est acerbe.
Michel, bon, pauvre, il est mort quand même, Michel. Il avait travaillé, à un moment donné, oh, il fait la messe, il fallait qu'il aille à la messe tous les... Il n'a pas été là, foutu à la pauvre, ça c'est bien. Ça c'est chrétien, son moi. Hein. Il l'a foutu à la pauvre parce qu'il n'allait pas à la messe.
On comprend l'aspiration profonde de tant d'ouvriers à ne plus dépendre de leur patron, au moins pour le logement. Le bonheur d'une Polonaise, arrivée à Mermulsien en 1934, qui, avec son mari, a pu acheter une maison de 2 pièces après 27 ans de travail, fait chaud au cœur. De ces 2 pièces, elle en a fait 4, toutes petites. C'est elle qui repeindra les murs, en bleu d'abord, puis en crème, et aujourd'hui en blanc, pour trouver la plus belle couleur. Mais écoutons-la.
Puis on disait toujours, on voudrait bien s'acheter une petite maison. Je voulais jamais une grande maison, mais une petite. Si j'aurais 2-3 pièces, ça me suffirait. Et là, j'en ai 4. Alors, ça me suffit grandement. On a acheté en 59, on a fait réparer en 60, puis en 61, on emménageait.
C'était déjà beaucoup mieux.
Oh là là, oui. Et puis, deux fois, on s'assoyait comme ça avec mon mari, puis on gardait comme ça. On était heureux comme tout, parce qu'on était dans notre maison. Et puis comme dans ma chambre, dans la chambre, quand on était comme ça, et puis moi je dis comme ça, alors tu fermes les yeux ou tu ouvres, comme tu gardes comme ça, tu m'as dit, ben dis-moi, je ferme les yeux. Je dis, moi non, je ouvre mes yeux, puis je garde tout ça, j'admire.
Dis, qu'as-tu fait des jours enfuis, de ta jeunesse, puis de toi-même, de tes mains pleines de poèmes, qui tremblait au bout de ta nuit. Ce cœur que l'homme avec lui porte ne change pas avec le vent. Nous mettrons demain comme avant des coquelicots à nos portes. Les mots que nous avons cueillis, les voici pour celui qui meurt. Passe les gens et tu demeures au poète de mon pays. Dis, qu'as-tu fait des jours enfuis, de ta jeunesse et de toi-même, de tes mains pleines de poèmes qui tremblaient au bout de ta nuit.
C'était « L'homme et la betterave à sucre », 100 ans de mémoire collective du Valois et du Mulsien. Aujourd'hui, les rapports entre les exploitants et leurs ouvriers. Réalisation RVM. Thank you.
Vous venez d'entendre un épisode de la série radiophonique « L'homme et la betterave à sucre », 100 ans de mémoire collective du Valois, une série de 15 émissions produites par RVM en 1994 et 1995.